L'assassinat du courrier de Lyon, épilogue. Un seul des assassins d'Excoffons et d'Audebert avait réussi à échapper à la justice. C'était le sieur Roussy. Vers la fin de 1803, on apprenait que Roussy, qui se faisait aussi appeler Rossi, Rouchy, Ferrari, l'Italien, le grand Italien et Louis Beroldi, avait réussi à quitter la France et s'était rendu à Milan. Là, il s'était livré à diverses entreprises industrielles, notamment à l'épuration et à la conservation des huiles. Possesseur d'un procédé relatif à cette opération, il avait eu l'idée d'aller l'exploiter à Madrid. Il y avait rencontré un concurrent, noble espagnol, qui, curieux d'avoir des renseignements sur lui et apprenant qu'il avait habité la France, s'informa à Paris par l'ambassade sur le compte de ces derniers. La police, interrogée, répondit que ce Luigi Beroldi devait être le Roussy, désigné par deux des assassins du courrier de Lyon comme étant l'un de leurs complices. Le gouvernement français demanda et obtint son extradition et, conduit sous bonne garde à Versailles, Beroldi fut aussitôt interrogé par M. Chollet, président du tribunal criminel qui avait présidé les débats de l'affaire Dubosc. Il commença par nier énergiquement, mais sur un ton plein de déférence et même d'obséquiosité, toute participation à l'affaire du courrier de Lyon. Roussy, type d'Italien félin et fourbe, haineux et sans scrupules, avait jadis commandé une de ces bandes alors si nombreuses en France qui avaient pour spécialité les vols dans les églises. Doué d'une certaine faconde, il chercha à égarer la justice, mais reconnu à une tache de vin qu'il portait à la main par la fille Madeleine Brébant et par le citoyen Chéron, l'ancien domestique de David Bernard, il continua néanmoins à protester de son innocence. Le principal argument de sa défense était celui-ci. « Il y a eu 5 assassins. Vous avez déjà condamné 6 individus. Voulez-vous condamner encore un innocent ?» Malgré tout, le jury cette fois n'hésita pas, et sur sa déclaration unanime, le 19 février 1804, le tribunal criminel de Seine-et-Oise déclarait Roussy, dit Beroldi, convaincu d'avoir commis sur les personnes d'Excoffons et d'Audebert 2 homicides volontaires avec préméditation et le condamnait à la peine de mort. Quelques jours après, l'échafaud était dressé sur une des places publiques de Versailles. 2 heures avant l'exécution, la Cour de justice criminelle de Versailles autorisait le substitut impérial à assister auprès du condamné pour obtenir de lui l'aveu de son crime et le nom de ses complices. Comme il lui demandait s'il avait connu le Zurk, Roussy Beroldi répondait « Non ». Le substitut reprenait « Votre déclaration intéresse vivement la famille Le Zurk. Il est essentiel que vous disiez toute la vérité. »« Je persiste, » répliqua Beroldi, « à déclarer que je ne connais pas et n'ai jamais connu Le Zurk. » Après cette déposition, il monta à l'échafaud où il fut accompagné par M. de Grandpré, curé de Notre-Dame de Versailles. L'exécution achevée, de Grandpré se rendait chez le substitut du procureur impérial, auquel il déclarait qu'il venait d'assister aussi à ses derniers moments et qu'avant de gravir les degrés de l'échafaud, celui qui allait mourir l'avait autorisé à déclarer à la justice que le jugement qui le condamnait, lui, Roussy, était bien rendu. L'honorable ecclésiastique ajouta que, 2 jours avant l'exécution, Roussy lui avait remis, écrit de sa propre main, un testament, en exigeant toutefois qu'il ne serait pas ouvert avant 6 mois. Le prêtre en fit le dépôt chez un notaire de Versailles, et lorsqu'à la date fixée par Roussy on l'ouvrit, voici ce qu'on lut. « Je déclare que le nommé Le Zurk est innocent, mais que cette déclaration que je donne à mon confesseur, il ne pourra la déclarer à la justice que 6 mois après ma mort. » Signé Louis Beroldi. Ce dernier fait rendit courage à ceux qui avaient entrepris la tâche de faire éclater l'innocence de Le Zurk. la veuve du malheureux et, au nom de ses enfants mineurs, leur tuteur, le frère de Joseph Lezurk, présentait, au mois d'avril 1804, à la cour criminelle de Versailles, une requête afin d'obtenir la communication des pièces du procès en annonçant leur intention de se pourvoir en révision pour cause d'erreur évidente contre le jugement du 18 Thermidor en 4. Cette demande fut repoussée. En 1806, Madame Lezurk, étant revenue à la raison, faisait présenter à son nom ou en celui de ses enfants à l'empereur Napoléon une autre requête dans laquelle elle le suppliait de l'aider à réhabiliter la mémoire de celui qu'elle considérait comme un martyr de la justice humaine et à sauver ses enfants de la misère où la condamnation du chef de famille les avait plongés. En même temps, Daubenton, qui ne l'avait pas abandonné un seul instant, adressait un mémoire à l'empereur dans lequel il demandait la révision du procès. Après avoir développé avec une clarté et avec une précision remarquable tous les arguments qui militaient en faveur de l'innocence de Lezurk, le magistrat terminait en ces termes. La réhabilitation de l'innocent condamné et exécuté est de droit public. S'il n'existe plus de loi qui règle les formes à suivre pour y parvenir, elle peut être faite, elle peut s'isoler du code criminel. Si toutefois, elle doit en faire partie, elle s'y rattachera aisément ensuite. Elle remplira une lacune qui ne devrait pas exister et qui aurait peut-être existé longtemps encore dans nos lois criminelles si l'affaire Lezurk n'en démontrait pas l'absolue nécessité. Très ému par les termes de la supplique de Madame Lezurk et fortement impressionné par l'éloquent mémoire de Daubenton, l'empereur ordonna au grand juge Régnier d'informer sur cette affaire. Malheureusement pour la cause de Lezurk, Régnier chargea du rapport M. Giraudet, le même avocat impérial qui, 2 ans auparavant, avait déjà repoussé toute idée de révision. M. Giraudet, lui aussi, était partisan du respect intégral de la chose jugée. Il laissa de côté tous les témoignages favorables aux condamnés et passant sous silence les aveux de Couriol, de Durochat, de Roussy, les rétractations du témoin Legrand, les déclarations du guichetier de la prison de Melun, etc., etc., il affirma qu'il ne fallait tenir aucun compte de la rétractation de la femme Alfroy, si singulière, si tardive et si peu motivée. « Enfin, écrivait-il, il faudrait admettre que le nombre des assassins n'était que de 5, et à cet égard, on n'a aucune certitude. » Il concluait ainsi, « Il a été vérifié, autant qu'il a été possible de le faire, que cette confusion de personnes, le seul moyen produit en faveur de Lezurk, n'avait point existé. » Dupé par ce rapport, l'empereur repoussa la révision. En 1810, lisons-nous dans les causes célèbres, l'iniquité de 1786 fut définitivement consommée. Les biens de Lezurk furent assignés à la dotation du Sénat conservateur et attribués à la sénatorerie du comte de Jacques Minot. Cet honnête homme les refusa par ses dignes paroles. « Je respecte trop le champ du malheur pour recevoir les biens entachés du sang d'un innocent. Il faut les restituer à la famille de la victime. » On s'en garda bien. Et le fisc, qui ne connaissait pas de scrupules, reprit sa proie et fit vendre au profit du trésor les biens de l'innocent. Quant à Daubenton, découragé, écœuré par les insinuations perfides que l'on faisait circuler sur son compte, il renonça à continuer la lutte et s'étant retiré du monde, il mourut en 1813 rongé par le remords d'avoir causé la fin de Lezurk et par la douleur de ne pas avoir réussi à réhabiliter la mémoire de sa victime. Madame Lezurk, elle aussi, se tut pendant 15 ans, c'est-à-dire jusqu'en décembre 1821. À cette époque, traquée par la misère, elle demanda un secours à la Chambre des députés. La requête ayant été apostillée par la députation du Nord, la Chambre prit cette demande en considération et chargea M. Drouet d'Arc, procureur du roi à Versailles, de lui faire un rapport. « Quelques jours lui suffirent, nous dit M. Gaston de Layen, pour être convaincu de l'innocence de l'Euzurc. Cependant, pour être pleinement éclairé, le ministre de la Justice, M. Perronnet, chargeait le baron Zanziago, conseiller d'État, de faire une étude plus approfondie de la question. À la suite d'un long rapport diffus, obscur et embrouillé, ce haut fonctionnaire concluait que la législation actuelle n'autorisait pas la révision du procès, et l'affaire fut classée une fois de plus. Cependant, le trésor restituait à la veuve Lezurc, sur les biens qui avaient été confisqués, une somme de 224 815 francs, qui, 11 ans plus tard, en 1834, devait être suivie d'une seconde, de 252 000 francs. Quelques jours après, épuisé par 40 ans de supplications infructueuses et d'efforts incessants, elle expirait, non sans avoir adjuré ses deux filles de continuer à poursuivre la réhabilitation de leur père. L'aînée de ses filles, Mélanie, qui avait épousé un monsieur Charles d'Anjou, recommença en vain ses démarches. Découragée par un insuccès persistant, elle se suicidait en 1845 en se jetant dans la Seine. Après la Révolution de 1848, M. d'Anjou adressait une nouvelle requête à Louis-Napoléon, président de la République. Tout ce qu'il put obtenir fut la nomination en 1850 d'un nouveau rapporteur, M. Lallouitte. Ce fut à cette époque que fut jouée, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la célèbre pièce du Courrier de Lyon, qui remua si profondément l'opinion publique. L'innocence de Lezurc devint pour la masse un véritable article de foi. Profitant de ce mouvement populaire, les descendants et les derniers défenseurs de Lezurc, par l'intermédiaire de Jules Fabre, le célèbre avocat, adressèrent une supplique à l'empereur Napoléon III et à l'impératrice Eugénie. Supplique qui demeura sans réponse. Enfin, Virginie Lezurc, ayant introduit devant la Cour de cassation le 18 février 1868 une instance en révision basée sur de nouveaux moyens indiqués dans la loi du 29 juin 1867, la dite Cour de cassation déclara que les deux arrêts de Lezurc et de Dubosc étaient inconciliables et rejeta les conclusions de la demanderesse. Cette fois, c'était bien fini. La procédure l'emportait sur l'humanité. Le respect de la chose jugée, même d'une façon inique, triomphait à jamais de la vérité. Jamais, légalement, Lezurc ne serait réhabilité. Qu'importe, après tout, mieux ne vaut-il point passer pour innocent dans les consciences des honnêtes gens que d'être justifié par un arrêt de cour toujours faillible. Dans l'histoire et dans la légende, Lezurc demeurera une victime, un innocent et un martyr.